Dutrisac.
S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
On est correct. Sybelle est inquiète pour l'horaire de l'émission. On est correct, Sybelle. Faites-en pas. Nicole Gibault, bonjour. Merci.
Bonjour, Benoît.
Merci d'avoir patienté, Nicole. C'est intéressant, la discussion sur les cégeps. Hein. Tu sais, vous autres, là, vous avez des avocats qui deviennent des juges. Il faut qu'ils passent par les cégeps. Il faut qu'on valorise l'éducation postsecondaire au Québec. Il ne faut pas qu'on arrête.
Absolument, il n'y a aucun doute, là, parce que on veut de plus en plus de personnes éduquées, c'est simple.
C'est ça.
On ne peut pas être contre la vertu là-dedans. Là. Mm.
Bon, le port de bracelet anti-rapprochement, ça ne fonctionne pas à 100%. Hein?
Non, bien, on l'a vu, on en avait discuté ensemble, parce que il n'y a pas beaucoup de cas où ça n'a pas fonctionné, mais il y en a quelques-uns. Dont celui dont on va parler aujourd'hui, mais la raison pour laquelle moi je pense qu'il était important d'en parler aujourd'hui, c'est pas nécessairement juste à cause de ça. Je suis un peu, je comprends pas vraiment cette sentence qui est une sentence de 22 mois, pour cet individu qui aurait brisé ses conditions. Parce qu'il portait un bracelet anti-rapprochement, oui, j'essaie de retrouver son nom assez facilement, là. Mais tout ça pour dire qu'il faisait face également à des accusations de voie de fait, de harcèlement et de bris de conditions. Parce que quand il avait été remis en liberté, on lui avait effectivement demandé obligé de porter un bracelet anti-rapprochement. Mais cet individu, je pense que c'est son Bobby Polak. Cette personne-là a plaidé coupable, puis il y a eu une entente de 22 mois pour tout ça. Voie de fait, harcèlement, bris de condition, parce que ça n'a pas fonctionné.
Ouais.
Il s'est approché. C'est pas lui qui l'a coupé. Bon, j'ai pas d'informations là, qu'il l'avait coupé ou quoi que ce soit, mais il a poussé à l'ultime ses gestes. Il était rendu dans sa chambre à coucher. Là, alors, cette dame-là a eu la peur de sa vie et elle a réussi, parce que c'est pas tout le monde qui réussisse à s'échapper. On veut pas que ça termine dans des voies de fait très graves ou un féminicide. Là. Mmh. Alors, il a réussi quand même. Mais là, pour tout ça, on a suggéré 22 mois. J'imagine qu'il y a des raisons que je n'ai pas. J'ai pas de détails, mais je trouve pas ça énorme. C'est en bas du pénitencier. Surtout qu'en 2020, on lit dans l'article qu'il y avait un dossier en semblable matière.
Ah oui.
En 2020.
Pas très dissuasif, hein, 22 mois?
Bien, c'est parce qu'en plus, ça a l'air que le juge a dû quasiment le réprimander en salle de cour en disant d'arrêter de regarder les victimes, parce que dans la salle, il y avait la victime, puis apparemment qu'elle était accompagnée d'une ex-conjointe du même gars qui supportait la victime. Puis là, il regardait un peu, on peut s'imaginer, là, puis il passait des commentaires. Le juge a été obligé de lui dire. Maintenant, est-ce qu'il y a des raisons particulières? Je ne sais pas pourquoi. C'est la couronne et la défense ont suggéré 22 mois, mais pour l'ensemble de l'œuvre, malheureux, et surtout le message d'avoir essayé d'aller plus loin que le périmètre, parce qu'il sait, il y a un bracelet là, anti-rapprochement. C'est comme évident, là. Tu sais, souvent, on donnait dans les ordonnances de conditions, là, dans les conditions à respecter, on disait pas à 100 mètres, pas à 200 mètres, à 50 mètres. Ben, c'est sûr qu'on avait des excuses. Je pensais que j'étais à 52, mais j'étais à 48 mètres, ou, tu sais. Ça pouvait. Mais là, t'as un bracelet anti-rapprochement. Tu sais, franchement, là.
Ouais.
Tu dois savoir comment ça fonctionne. Puis ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, je suis un peu perplexe là,
Décision-là. Surtout récidiviste, là. Il comprend rien, ni du cul, ni de la tête, là. Puis là, 22 mois.
Mais je ne sais pas si le message va passer et sur les voies de fait, le harcèlement en matière conjugale et d'avoir en plus enfreint une ordonnance de condition de remise en liberté avec un bracelet. Là, on a le portrait général. Puis il lui reste à peine 10 mois à faire. Fait que je comprends la dame qui a très peur encore. J'espère qu'on y en a imposé un autre.
Un bracelet?
Ben, j'espère.
Ben, s'il est en prison, non?
Je sais pas.
Ouais.
Ben oui, quand il va sortir.
Ah oui, ah ben j'espère bien. Pour un bout de temps, en plus. Parle-moi de cette policière, Isabelle Morin.
Hey, ça fait longtemps, là. Ça fait tellement longtemps là, que ce dossier-là dure. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que quand je suis arrivée dans les médias, ça commençait à peine, là, en 2015. Il y a eu un accident sur l'autoroute Laurentienne. Et cette policière-là conduit un véhicule, évidemment, de police. Elle a fait ce qu'on appelle communément un virage en U, là.
Ouais.
Et, mais il y avait de la construction, il y avait des cônes, c'était la noirceur. Et je me souviens très bien de ce dossier-là, où ça a été terrible. Il y a un motocycliste qui s'en venait, peut-être qu'elle allait un peu vite, peu importe, mais c'est pas nécessairement à cause de la vitesse, parce que peu importe, il y avait presque pas de circulation. Mais le véhicule de la police, que la policière conduisait, qui a fait un virage en U, est venu carrément bloquer la voie et il a rentré dans le véhicule. Puis évidemment, l'individu est décédé. Sa mère est dans tous ses états d'avoir perdu son fils. Alors, il y a eu un premier procès et elle a été acquittée. Ils sont allés en appel, la couronne. La couronne a gagné. Ils ont redonné, la cour d'appel a dit un deuxième procès. Il y a eu un deuxième procès. Depuis 2015, deuxième procès, elle a été déclarée coupable, deuxième procès. Et le juge fait référence à certains propos où elle dit, écoutez, j'aurais fait la même manœuvre, que je sois dans mon véhicule ou non. Tu sais, c'est quand même une conduite dangereuse d'essayer de faire un virage en U, qu'on soit policier ou citoyen ordinaire. Et d'ailleurs, elle a référé à citoyen ordinaire. Je suis pas certain que le soir, avec des cônes oranges, des citoyens ordinaires font des virages en U parce qu'ils sont tannés de la circulation, là.
Mais est-ce qu'elle répondait à un appel? Parce que moi, un accident.
Non.
Mais un accident de voiture, Nicole, est-ce que ça mérite la prison si c'est un accident?
Ben, elle a fait pas un accident. Elle a fait, selon le tribunal, c'était une conduite dangereuse qui a causé un accident. On peut avoir un accident, mais c'est pas parce qu'on conduit dangereusement, nécessairement. Mais ça en prend de la preuve pour ça ici. Faire un virage en U alors qu'on est le soir avec des cônes oranges dans une autoroute qui est en construction alors qu'il y a plein de choses dans le milieu de la place, ça constitue, selon le tribunal, une conduite dangereuse. Et là, évidemment, ça a causé cet accident et c'est une infraction très claire au code criminel, conduite dangereuse causant la mort. Et dans ces circonstances-là, le tribunal, deuxième procès, l'a trouvé coupable. Donc, 1 an de prison, mais elle est en appel, deuxième appel de la décision. Puis je comprends, là, une fois c'était acquitté, l'autre fois c'est coupable. Alors, selon elle, elle n'a pas conduit dangereusement. C'est difficile de comprendre le raisonnement de tourner sur une autoroute avec un véhicule, peu importe le véhicule, le soir, à travers des cônes oranges. Si c'est pas de la conduite dangereuse, enfin, on verra ce que le tribunal, la cour d'appel va décider, mais sinon, elle a écopé 1 an de prison. Évidemment, elle est sortie, là, parce que lorsque on fait une demande à la cour d'appel, parce qu'on a logé un appel sur le fond, c'est-à-dire la décision de fond, là, qu'il l'a trouvé coupable, il n'y a pas de danger qu'elle s'esquive, là, ou qu'elle parte, là. Alors, on verra ce que la cour d'appel va décider.
Mais tu vois, je pensais pas que ça, c'était de la conduite dangereuse. Tu sais, si tu fais une erreur, là, tu fais un U-turn, puis tu le vois pas venir, c'est le soir, puis je pensais pas que ça allait être considéré comme la conduite dangereuse.
Ben, je pense que c'est pas toujours, ça peut ne pas, un virage en U est pas toujours considéré, mais il faut qu'on mette toutes les circonstances.
Ouais.
Une autoroute en construction, dès qu'on arrange le soir, et faire une manœuvre sans nécessairement voir d'où venait ou quel genre de véhicule, ça serait une conduite dangereuse pour à peu près tout le monde, à mon humble avis.
Okay. Parfait.
Alors, voilà.
Nicole, merci, puis on se reparle jeudi.
Oui, merci, au revoir.
Bye.